Bonjour à tous. Alors, je suis Jérôme, et pour cette interview Culture Queer, je reçois aujourd'hui Ludovic Piétu, le co-auteur d'une bande dessinée en deux opus essentiels. Bonjour Ludovic.
Bonjour Jérôme.
Alors, je vais un peu présenter ton travail. Donc, si vous ne les avez pas encore dans vos bibliothèques, Pédale et Dehors sont les bandes dessinées qui rendent compte d'un avant, pendant et après Coming Out, plutôt bien vécu. Et je vais donc interviewer Ludovic, qui est le co-auteur de cette bande dessinée. Est-ce que tu peux te présenter un peu, parler de toi un peu, et puis aussi de ta co-autrice Jika, de cet indispensable de la culture LGBT, qui est ta bande dessinée en fait.
Oui, quelques mots sur moi. J'ai 47 ans, je suis né en France, j'ai vécu dans plusieurs pays, en Thaïlande notamment et au Canada. J'ai fait mon coming out à 23 ans. J'ai rencontré Jika en 2006, donc on va fêter cette année nos 20 ans d'amitié. Et Jika est elle-même illustratrice, photographe, et c'est elle au départ qui a eu l'idée d'illustrer mon parcours de jeune homme homosexuel et puis d'adulte homosexuel à travers des BD. Et Pédale et Dehors sont ses deux premières BD et mes deux premières BD également. Moi, je ne suis pas professionnel de la BD à la base, j'ai un job, je suis ingénieur agronome et je travaille dans l'agroalimentaire. Mais c'était un plaisir de faire ça avec elle, et j'aurais pu faire ça qu'avec elle. Il n'y a personne d'autre à qui j'aurais pu partager à ce point des choses aussi personnelles que elle, et c'est grâce à elle en fait que ce projet a existé, que ça a été une superbe aventure qui a nourri notre amitié et qui en plus maintenant est disponible à tout le monde, et on a nos deux bébés. On n'a pas d'enfants nous, ni elle ni moi, et c'est nos deux bébés qui grandissent petit à petit et qu'on voit avec plaisir se balader de main en main, soit pendant des dédicaces ou soit dans les bibliothèques. Donc une très très belle histoire.
Bien, et en fait moi si je ne... si je trompe pas ce que tu m'as confié, à la base il était question d'en fait de faire une sorte de série de petites histoires, on va dire un peu comiques, un peu caustiques, ouais, sur tes expériences sexuelles d'adulte. Et en fait vous, de ce projet de base, vous vous êtes décidé petit à petit pour faire une BD qui va même raconter ton histoire même un peu avant ta naissance. Comment c'est arrivé, comment ce projet a découlé donc d'une série de on va dire, allez, osons le mot, de plan cul à une histoire où on te voit bébé, enfant, et en fait on va te suivre jusqu'à tes études supérieures et après.
Et encore une fois, c'est vraiment de Jika que ça vient. En fait, Jika, on s'est rencontrés, j'avais 28 ans, on habitait en Thaïlande, donc moi j'habitais en Thaïlande, donc vous imaginez un jeune dans sa vingtaine d'années qui, j'avais fait mon coming out à 23 ans, donc ça faisait 5 ans que j'étais hors du placard, et je me faisais mes expériences de relation, alors en essayant toujours de trouver un partenaire plus long terme, mais on trouve jamais le bon du premier coup, et donc ce qui fait que j'ai eu des aventures d'un soir, et j'en ai eu plusieurs, et Jika était devenue ma meilleure amie à l'époque, et je lui racontais à peu près tout, et ça la faisait beaucoup rire évidemment, parce qu'il y a des plans cul qui sont très bien, mais des plans cul qui sont un petit peu la loose. Et on s'en amusait, et c'était un moment où elle a dit bah, « Tiens, j'aimerais bien un jour, ce serait drôle qu'on rassemble tes plans cul et qu'on fasse des petits strips BD en trois cases avec un développement pas même chute, ce serait très drôle. » Et on avait gardé cette idée en tête, mais on n'en avait rien fait à l'époque, et puis c'est plus tard, quelques années plus tard, où on a eu l'occasion... on était bloqué pendant une journée au Canada, on attendait un avion et on était bloqué dans un café, on s'est dit « Bah tiens, on a une journée à perdre, travaillons sur ces projets strip BD. » Donc je lui ai partagé un peu des plans cul, puis finalement de fil en aiguille, je suis remonté dans le passé et j'ai commencé à ouvrir les années d'août. Je lui ai parlé un peu plus de mes 4 années avec une fille, parce qu'en fait avant de faire mon coming out à 23 ans, j'étais pendant 4 ans avec une fille, un peu dans le déni en fait. Je savais que j'étais attiré par les hommes, mais je voulais pas l'accepter, et donc elle savait ça, mais elle savait pas tellement le cheminement. Et en fait, en refaisant le cheminement et en revenant à l'adolescence, Il y a un moment, en fait, parce que c'est elle qui prenait beaucoup de notes, à un moment, elle a lâché les crayons et elle a dit non, mais en fait, avant de faire la BD rigolote sur tes plans cul un peu loose, il va falloir qu'on parle de cet adolescent, de tes doutes, de tes difficultés, parce qu'elle, elle s'imaginait pas, en fait. Elle m'a connu à 28 ans complètement assumée. Elle s'est dit, j'ai du mal à faire le lien entre toutes les difficultés que tu as eues et l'homme assumé que je vois maintenant. Et je pense que c'est important de décortiquer ça et d'en faire quelque chose, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Donc moi, ça m'intéressait pas du tout de faire cette première BD. J'avais pas envie de remuer, j'avais tout enfermé dans une boîte de Pandore, là. J'étais là, elle est bien enfermée, moi je suis bien avec qui je suis maintenant et j'ai pas envie de réouvrir cette boîte. Et elle est revenue à la charge 2-3 fois, et petit à petit, moi, en lisant aussi d'autres BD, enfin, j'ai essayé de trouver, je me suis dit, mais c'est sûr que ça existe déjà, en fait, cette BD-là, il n'y a pas besoin de la faire, c'est sûrement quelqu'un qui l'a écrite, et j'ai cherché, j'ai lu des BD LGBTQ+, et je lisais plutôt des choses assez lourdes, alors avec des parcours, des histoires qui méritent d'être racontées aussi, mais des choses pas si faciles à digérer, où je me disais, où quelqu'un de jeune lit ça, peut-être ça fait pas tellement envie de sortir du placard avec ce genre d'histoire. Et finalement, comme mon histoire s'est plutôt bien passée, on peut pas dire que c'était un chemin sans embûche, mais ça s'est plutôt bien passé. Et avec la distance aussi, on pouvait en rire. En fait, je pouvais regarder cet enfant et cet adolescent qui se posait des questions et prendre l'humour comme distance. Et ce qui fait qu'on l'a abordé comme ça. Et j'ai dit, ok, on peut faire ce premier livre. Mais il ne faut pas que ce soit lourd, il faut se prendre de la distance, et c'est comme ça qu'on a fait. Et ça tombait bien qu'on tombe sur la seule maison d'édition qui nous a répondu. Il ne nous en faut qu'une, hein, c'est Rookmout, et qui est plutôt une maison d'édition qui est vers l'humour. Et en fait, eux trouvaient ça intéressant de raconter ce parcours avec beaucoup d'ouverture et d'honnêteté, et en même temps d'avoir quand même aussi l'humour pour expliquer tout ça et décortiquer tout ça.
Alors effectivement, dans le premier opus, Pédale, on te suit dès ta plus tendre enfance, même un petit peu avant, on suit même le projet de naissance. Et ben moi, je trouve ça particulier comme démarche. C'est un peu le psy qui va parler là, parce que ben, je fais ma formation moi-même en psy en ce moment. Et je vois bien que dans de nombreuses techniques de développement personnel, ben, on te demande de convoquer ton petit enfant intérieur. Alors, je veux pas faire de rapprochement un petit peu trop, cliché, mais est-ce que, parce que là, tu as dû convoquer ton enfance, tu as dû te rappeler pas mal de choses, d'ailleurs, tu le dis, tu n'as pas du tout eu envie au début, c'était enfermé dans ta boîte de Pandore, est-ce que ça a eu une portée thérapeutique de faire quelque chose, de faire ça, en fait ?
C'est intéressant, parce que c'est une question que des amis ou des gens de la famille m'ont déjà posée, et au début, quand on me posait la question, je disais, mais non, mais bon, je fais ça, mais c'est bon, on s'amuse. Et puis je suis JK, enfin, c'était pas un JK qui prenait le lead en fait et qui posait les questions et qui faisait ce rôle de psy un peu dont tu parles là. J'avais pas l'impression que j'étais chez la psy puisque je racontais tout à ma meilleure copine, donc elle prenait, mais par contre elle prenait plein de notes, et le travail d'écriture du premier là de Pédale, c'était beaucoup, finalement elle a collecté énormément de matières premières et ensuite on l'a remanié. Et c'est vrai que toute cette matière première, je pense que c'est peut-être de ça que se nourrissent les psys, je sais pas. Mais on l'a retravaillé ensemble. Et c'est vrai qu'au début, je disais, mais non, c'est pas comme une thérapie. Et en fait, en y repensant avec le temps, je me suis dit, mais si, finalement, ça m'a permis de... Même si j'avais fait la paix et que j'avais enfermé ça dans une boîte et que ça m'arrangeait, le fait d'avoir un peu réorganisé, fait le tri, je pense, m'a aidé à m'accepter encore plus moi-même tel que je suis aujourd'hui. Je me suis rendu compte aussi en travaillant, puis avec les questions de JK, que certains souvenirs... Je les avais comme réinventés. Il y a quand même un truc dans le cerveau qui fait que j'ai peut-être remanié mon histoire dans ma tête, et qu'il y a certains moments, je dis, ah non, mais si je suis vraiment honnête, ça s'est vraiment passé comme ça, plus que... Et donc, ouais, j'ai peut-être fait le tri un peu de ça. L'autre petite anecdote qui, pour moi, me dit, j'ai quand même fait un beau travail à travers ça, c'est, au départ, je voulais pas du tout... Y a forcément, comme beaucoup de personnes marginales, j'ai reçu des insultes à l'adolescence, alors je vais pas spoiler, mais voilà, Pédale, ça parle pas que de vélo. Et au départ, je voulais pas en parler, en fait, de ces insultes-là. Et JK, elle disait, mais non, mais si, on peut pas passer à côté de ça, enfin, il y a un moment, faut en parler aussi de ça, de l'insulte, de qu'est-ce que ça fait de recevoir une insulte quand t'as 11 ans, enfin... Et au départ, je voulais pas qu'on pleure sur moi, je voulais pas que ce soit larmoyant, je voulais que ce soit léger, drôle, machin. Et ça, c'était au début, et finalement, j'ai accepté que ce soit dans l'histoire, et j'ai même à un moment eu l'idée de me dire, mais en fait, il faut que ce soit le titre. Et du coup, d'un truc dont je voulais pas parler, c'est devenu le titre, et d'inverser justement l'insulte, un peu comme l'insulte queer qui a été réappropriée en anglais, de se dire, ma pédale, je le mets en titre de ma BD et je le mets dans votre face. Et même si je l'ai reçu et que ça m'a fait souffrir, maintenant c'est mon totem. Donc voilà, donc, dans ce sens, je pense que je suis assez d'accord avec toi, ça m'a quand même aidé, que, même si au départ je disais que non, mais si.
Alors c'est assez rigolo parce que je t'avais prévu une question justement qui pose là-dessus, qui porte là-dessus, parce que moi ce que j'ai justement aimé dans ta BD, enfin dans tes BD, c'est l'honnêteté, la franchise, la transparence. Et ce que je relève aussi de ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, effectivement, moi-même, je suis un grand lecteur de bandes dessinées, de romans graphiques, et j'avais du mal à trouver des titres où il était question d'histoire autre que celle qui passe par soit de la souffrance, soit... Et ça m'a fait un bien fou, en fait. C'est-à-dire que je me suis vraiment retrouvé dans une histoire... pas toujours légère, parce que effectivement, tu le dis toi-même, il y a eu ces insultes, t'as bénéficié de beaucoup de bénévolence, mais t'as notamment, moi, j'ai fixé sur une chose, une de tes tantes qui te dit, bon bah écoute, ok, t'es gay, ça je l'entends, par contre ramène pas tout de suite un copain parce que je suis pas prête. Enfin bon, c'est pas toujours non plus facile à entendre. Moi, ce que j'allais te demander justement, mais tu viens un peu d'y répondre, donc peut-être que tu vas préciser un petit peu, est-ce que tu as dû faire sauter quelques blocages pour l'exercice ?
Ouais, ce dont je parlais un petit peu plus tôt, effectivement, il y a des choses que je voulais pas aborder, et que finalement on a abordé parce que ça aidait à comprendre. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme blocage ? J'ai pas eu tant de blocage que ça, à part ça, parce que j'étais, encore une fois, j'étais accompagné par une personne très bien. Tu parlais de bienveillance, et justement, j'étais avec Jika, et elle était dans un endroit de bienveillance. Elle avait pas un agenda spécial où il fallait absolument qu'elle me fasse cracher des infos. Et donc, ce qui fait que j'étais en toute confiance avec elle. Ça m'a vraiment aidé à partager le plus honnêtement possible et d'être et de pas être dans le mensonge, ouais. Donc c'est pour ça, je l'entends souvent, hein, ce côté, ce que j'aime, c'est l'honnêteté, la transparence, et je pense que ça vient de là. C'est le fait que, comme j'ai travaillé avec elle, j'ai rien caché. Alors que si j'avais travaillé avec un autre ou une autre illustratrice, je pense qu'il y a peut-être des choses que j'aurais retenues, que j'aurais pas partagées, j'aurais pas été en confiance, et ça aurait pas du tout été dit. Donc le fait de le faire avec elle a été vraiment transformateur, je sais pas si ça se dit, mais ça m'a, ouais, ça a permis vraiment que je me mette à poil, clairement, c'est ça. Et donc ce qui fait qu'après, j'ai pas eu d'autres blocages. On a été aussi très bien accompagné par Roukmout, hein, il a été aussi très bienveillant, donc il nous a pas mis de limites. Sauf le fait qu'effectivement il y a un peu de contenu sexuel, mais qu'il faut jamais que ce soit pornographique, sinon on limitait les lecteurs, le nombre de lecteurs et la portée, et ça aurait été dommage, parce que finalement on se rend compte avec Pédale qu'on atteint un public assez jeune. Ça, j'étais vraiment étonné en dédicace, qu'il y ait des jeunes qui soient attirés par notre BD, ou que des parents se disent, ah bah tiens, ça va être bien pour mon ado. Et c'est souvent une question d'ailleurs qu'on nous pose, hein, c'est à partir de quel âge, et moi j'ai aucune idée parce que j'ai pas d'enfant, mais j'ai beaucoup de lecteurs, de lectrices qui me disent, bah Pédale, à partir de 11 ans, ça passe, quoi. Non, pas tant de blocage, à part effectivement, oui, peut-être se trouver la ligne fine entre, oui, ça va parler de sexualité, et comme c'était notre première BD, on savait pas où placer le curseur, mais on a été accompagné par notre éditeur.
Alors moi, il y a quelque chose que j'aime bien, parce que en fait, il y a aussi une sorte de regard sociologique grâce à ce que vous avez fait. Par exemple, on te suit, donc, comme je disais, dans toute ta scolarité jusqu'à tes premiers postes de boulot. Et je vais citer deux anecdotes qui sont, on va dire, assez contradictoires l'une et l'autre. Et c'est assez rigolo de lire ça dans le même bouquin, en fait. C'est-à-dire que en sixième, tu es dans un collège privé catholique, j'imagine, c'est bien ce que j'avais retenu, et vous avez un cours sur la sexualité, et alors là il est dit clairement que les rapports que la sexualité sont les rapports entre un homme et une femme, point barre. Donc on te voit dans cette salle de cours, puis quelques années après tu es en prépa vétérinaire, c'est ça ? Et là, tu passes au tableau. Alors, je ne sais plus trop de quoi il s'agit en termes d'exercice. Et là, tu as un prof qui te dit, mais enfin, vous auriez pu prendre l'exemple d'une espèce qui change de sexe. Il y avait la dorade, par exemple. Et là, on te voit surpris. Donc, c'est assez rigolo comme parcours parce que ça permet aussi de faire un constat sur notre société, sur les évolutions et puis sur aussi, bien entendu, l'entourage et le milieu dans lequel on est qui fait que des portes s'ouvrent ou pas. Donc c'est vraiment ce que j'ai aimé particulièrement dans ton travail. D'ailleurs, ce qui se remarque aussi, c'est que ton premier opus, en fait, Pédale, ben, en fait, tu caches. C'est un opus du secret en grande partie, c'est-à-dire que c'est comment je m'arrange avec la réalité. Et tu vivras ton coming out, comme tu l'as dit, à 23 ans, alors que tu seras fiancé, Margot, que tu aurais rencontré d'ailleurs en prépa vétérinaire. Et j'ai une question. Bon, ce qui fait pas un pli quand on lit ta BD, c'est que tu l'as aimé, vous vous êtes aimé, ça c'est net, clair, précis. Toutefois, la BD, elle montre que tu as vécu une sorte de pression de ton entourage. Même si c'était de la part de tes amis, tout le monde te disait, mais alors, tu es toujours célibataire, mais alors, il n'y a pas une nana qui t'intéresse. Regarde, machine, là, en soirée, je me souviens d'une case où elle a les yeux qui puent le cul, elle te regarde. Et ce que je voulais te demander, est-ce que c'est une pression c'est aussi cette pression qui a fait de toi, à une époque de ta vie, un jeune homme fiancé à une femme, ou pas du tout ?
C'est fort possible, effectivement. Il y a ce truc, dès le collège, on n'a pas besoin d'attendre la prépa, dès le collège, il y a quand même ce truc de la performance où il fallait absolument avoir roulé une pelle à une fille derrière le bus le soir. Enfin, je sais pas où vous étiez au collège, quoi, mais en tout cas voilà, il y avait ce truc de sortir avec une fille, enfin en tout cas avec le sexe opposé, puisque c'est ça qui se montrait, et le montrer au peuple pour montrer qu'on est valable, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a accompagné déjà, et que je pense qu'il accompagne tous les jeunes, et c'est pour ça que c'est assez universel, en fait, Pédale. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais en fait moi j'ai vécu la même histoire, même si je suis hétéro, cette pression là elle existe, on doit performer, on doit montrer, enfin on découvre la sexualité, en même temps on sait pas comment l'utiliser, mais il faut quand même déjà être très démonstratif. Donc cette pression, elle existe, donc faut montrer qu'on sort avec quelqu'un au collège, puis après au lycée, faut plus être puceau. Enfin, moi j'avais 19 ans, j'étais encore puceau, c'était presque bizarre finalement. Autour de moi, il n'y avait que des gens qui avaient déjà en tout cas, qui parlaient de leur relation sexuelle, et moi j'étais encore puceau à 19 ans, donc... Donc oui, je pense qu'il y avait de la pression, et que comme à cet âge-là, à 19 ans, j'étais pas prêt à me dire, bah oui, je vais sauter le pas et je vais draguer des mecs et faire ma première fois avec un mec. Je me disais, et ça honnêtement, et je pense que je le dis dans la BD, à l'époque, je me disais, mais oui, je suis attiré par les gars, mais en fait, c'est que d'une fille que je peux être amoureux. Je peux pas tomber amoureux d'un garçon. J'ai des pulsions sexuelles, c'est juste le sexe, mais par contre, l'amour pur, ce sera avec une fille. Et c'est pour ça que Margot, qui était à l'époque comme une âme sœur, et à un moment je me suis dit, bah tiens, bah, ça va être elle du coup. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine pression générale de toute façon de performer la relation amoureuse et la relation sexuelle et de savoir en parler.
Ouais. Oui, d'ailleurs, ce que j'ai retenu, c'est qu'à un moment, quand tu es avec Margot, dans cette BD, donc tu écris même « ça y est, je suis guéri, enfin ». Voilà, donc effectivement, on sent justement ce côté pression, mais toutefois, je trouve que tu as bénéficié, notamment grâce à tes amis que tu as rencontré généralement via tes études, comme on le fait tous. Moi, ce que j'ai trouvé génial, c'est qu'en fait, je pense qu'ils le sentaient un petit peu tous autour. Donc, t'en as qui te demandent si t'es pas homo, en fait. Et puis, le jour où tu leur apprends, parce que tu te sépares de cette Margot, parce que tu as eu une relation avec un homme, en fait, ils vont même devenir des coachs. Et alors ça, moi, je trouve ça impressionnant, parce que t'as un t'as un ami donc qui est plutôt hétéro, qui va te dire des choses quand même assez fortes. Moi, j'aurais adoré personnellement avoir ce genre d'amis hétéro autour de moi, hein, clairement, parce que tu as eu une relation notamment apparemment avec un Italien qui t'a trouvé un peu trop féminin, et c'était notamment une époque où tu étais en Chine. Et là, il te dit carrément, bah écoute, s'il te trouve trop féminin, c'est pas la peine de te transformer toi. Tu vas pas non plus devenir un mâle alpha avec toute la connerie que ça comporte. Et puis si tu brûles tes strings, j'irai t'en acheter d'autres. Alors moi, ça, j'ai trouvé ça juste excellent. Tu peux nous parler un peu de ces amis en quelques mots, s'il te plaît ?
Oui, effectivement, c'est rigolo que tu en parles parce que finalement, quand on discute du livre, on parle assez peu de cette bande d'amis-là, et notamment de William qui a été juste exceptionnel. Enfin, moi, pendant longtemps, ça me faisait les frissons en fait de repenser à ce moment-là, et effectivement, j'ai été vraiment pris sous leur aile parce que c'était pas facile, parce que c'est dur, parce que je quittais une femme que j'aimais. Et que par la même occasion, je disais que j'étais gay, et j'ai jamais été rejeté. Au contraire, j'étais presque encore plus accueilli à cause de cette vulnérabilité-là, où ils disaient, bah tiens, notre ami, il a besoin d'aide, et c'est maintenant qu'il faut être présent. Et ils ont su trouver les attentions, me faire une place dans leur colloque, trouver les mots. Cette lettre dont tu parles, c'est un mail qui m'a vraiment écrit et que j'ai retrouvé. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai aussi beaucoup gardé de choses en fait. Donc c'est vraiment très autobiographique en fait, ces BD. Il y a du vrai matériel que j'ai retrouvé. J'ai eu beaucoup de chance et je suis très privilégié, et ça reste des amis super proches. Et là, je suis revenu après 8 ans au Canada, je reviens en France et on habite pas loin l'un de l'autre avec William, et on est super contents.
Alors oui, tu évoques justement les voyages. Bon, grosso modo, les gens achèteront le deuxième opus, ils verront que tu as beaucoup voyagé, la Chine, la Thaïlande, et ça a été l'occasion pour toi apparemment d'approcher une autre façon de voir les relations. J'ai notamment vu que tu avais eu un amant chinois qui te dit, bah, tu sais, ici c'est open depuis 2001, mais c'est en théorie parce que comme il y a eu la politique de l'enfant unique, tu penses bien que nos parents, ils veulent absolument qu'on ait des gosses, et le modèle hétéronormé, il est là, quoi. Et puis après, tu vas en Thaïlande, où là, on sent que, bah oui, en fait, ça va un petit peu peut-être avec cette influence bouddhiste, où t'as un de tes collègues de travail qui devient également un ami, qui te dit, mais tu sais, ici, en fait, on n'est pas dans la projection, on n'est pas dans le contrôle. Les relations, elles deviennent parce qu'il y a une destinée, et donc, comme on croit en sa destinée, bah voilà, ça se vit comme ça. Qu'est-ce que tu retiens, toi, un petit peu de tous ces voyages-là que tu as fait, et notamment, là, tu viens de parler du Canada? Ça t'a apporté quoi comme regard?
Bah, sur ce point de vue LGBTQ+, comme sur tous les autres points de vue dans la vie, hein, de vivre dans différents pays amène différentes perspectives, et effectivement, c'était à l'époque une certaine liberté d'être en France en tant que gay, et de se rendre compte qu'en Chine c'était très compliqué et très refoulé. C'était voilà, mesure ta chance en fait, tu te dis voilà, j'aurais pu être gay en Chine, c'était moins pratique, mais on peut être gay aussi, il y a plein de pays où c'est encore la peine de mort d'être gay, donc on se rend compte que même si on a l'impression par exemple dans notre pays ou là où on habite que ça va bien, qu'on est marié à un homme et que ça se passe bien et qu'on a eu de la chance, on est bien entouré, il y a encore plein d'endroits dans le monde où c'est pas du tout safe de faire son coming out et d'être qui on est. J'ai vécu au Canada et c'est un autre niveau encore. Enfin, nous, on a, avec mon mari, parce que maintenant je suis marié, on a appris à se tenir la main dans les rues de Montréal, parce que c'est un truc qu'on n'avait jamais fait avant, de peur de... Enfin, on avait intégré, ça nous manquait pas, on avait intégré que dans l'espace public, on se tient pas la main parce qu'on risque de se faire taper sur la gueule. Et à l'opposé, à Montréal, les couples de même sexe se tiennent la main, et on avait l'impression qu'on allait se faire taper sur la gueule si on n'allait pas se tenir la main. Donc on a appris, tu sais, petit à petit à ça. Donc c'est intéressant de voir différentes perspectives. C'est intéressant aussi de voir, pendant mes 8 ans d'absence de France, la France a continué d'évoluer, et j'étais positivement surpris au retour en France de l'acceptation générale. Alors que moi j'étais parti de France, c'était juste après... Les grandes manifs contre le mariage pour tous qui m'avaient pas mal choqué. Et donc maintenant, ça fait 10 ans et ça a l'air de bien se passer. Donc voilà, les pays sont pas les mêmes, les pays avancent chacun à leur rythme, mais les pays avancent. La Thaïlande, même si c'était très ouvert, moi quand j'y étais, il n'y avait pas encore de cadre légal pour les mariages homosexuels, puis finalement c'est arrivé, je ne sais plus, il y a un an ou deux, donc c'est quand même assez récent. Même si la société était prête il y a 20 ans, même plus, il y a eu un vrai cadre légal seulement récemment. Donc il y a toujours aussi ce décalage entre la société, comment elle évolue, et puis la législation, comment elle avance. Mais c'est intéressant de vivre dans d'autres pays pour ce point de vue-là, et aussi pour plein d'autres choses, pour pouvoir comparer et se dire que la France, c'est quand même pas si mal et qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien ici.
Oui, effectivement. Bon, il y a toutefois, moi, ce que je vais un petit peu conclure là-dessus, c'est-à-dire que il y a eu récemment, dans l'actualité, malheureusement, encore quelques actes homophobes et transphobes. Moi qui suis normand, par exemple, il y a eu à Fécamp, le 4 décembre dernier, une personne transgenre qui, malheureusement, s'est fait taper dessus, puis un couple dans les Landes qui, au retour de chez lui au moment de Noël, pareil, avec une violence qui est intolérable, quoi. Donc ce qui fait du bien avec votre bande dessinée, c'est que oui, déjà ça fait un bien fou, hein, moi je le dis, ça redonne de l'espoir aussi quand on a cette actualité là face à nous, c'est à dire que un coming out, ça peut bien se passer quand on a la chance d'avoir autour de soi tout ce qu'il faut, je dirais une sorte de terreau pour bien faire pousser ces plantes qui nous sont nécessaires. Alors moi je vais vous inviter tout simplement à aller acheter ces bandes dessinées, il n'y a pas de raison, moi je suis un grand fan, mais vous pouvez le devenir aussi. Donc comme il a été dit tout au long de l'interview, vous pouvez aller sur le site des éditions Rookmout. Donc Rookmout, vous avez bien entendu. Il faut absolument que vous exigiez auprès de vos libraires Pédale et Dehors de Ludovic Piétu et Jika. Est-ce qu'on peut parler du prix ? Ça reste un prix très correct, c'est 20€ la bande dessinée. Moi qui suis un habitué de la bande dessinée, je peux vous dire que c'est très 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 raisonnable. Eh bien écoute, je te remercie pour avoir partagé ton histoire où la bêtise ne l'emporte jamais sur la tolérance et la bienveillance. Et je souhaiterais moi personnellement un troisième exemplaire, un troisième opus, je ne sais pas si c'est en préparation.
C'est dans la tête, mais pour le moment c'est que dans la tête. Mais effectivement il y a dans l'idée de la continuité, je pense que j'ai envie de raconter ce qui se passe ensuite, ouais. Mais JK a ses projets et donc ça viendra, mais ça prend du temps de faire ces petits bébés là, vous vous rendez pas compte.
Mais en tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le travail de Ludovic et Jika. Et si cet épisode vous a ému ou inspiré, n'hésitez pas à le partager. À très bientôt sur la radio Queer As You pour un prochain épisode de Culture Queer. Bye.